Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Dans ce nouvel épisode de Pourquoi tu cries, rencontre avec Alain Castan, militant anticolonialiste. Il co-dirige avec Nora Mecmouche le guide du Marseille colonial qui sortira en septembre. Bonjour Alain Castan, merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode de Pourquoi tu cries. Avec vous, on va revenir bien sûr sur votre parcours, mais d'abord une première question. J'aurais voulu que vous nous parliez du guide qui va bientôt sortir le 1er septembre, le guide du Marseille colonial. Pourquoi c'est important et quel message, qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers ce guide ?
Ça fait des années que je passais tous les jours devant des endroits qui me révoltaient. Ils me révoltaient par ce qu'ils étaient, par ce qu'ils représentaient, et aussi par l'indifférence. C'est-à-dire qu'on pouvait passer, par exemple, y compris des militants antiracistes, pouvait passer à côté des escaliers de la gare Saint-Charles et voir les affreuses statues qui sont en bas des escaliers, sans s'en rendre compte, sans le voir. Et finalement, ça fait partie de... On ne le voit pas. Et moi, il y a un endroit qui m'avait particulièrement frappé, c'était une inscription qu'il y a sur le monument des mobiles. Il est en haut de la Canebière, le monument en face de l'église réformée. Et donc, pour tout le monde, y compris pour moi-même, ce monument, c'était un monument, comme il y en a d'autres, c'était pour ces combattants marseillais qui étaient allés sur le front contre la Prusse. Un beau jour, j'ai regardé ce qu'il y avait écrit. Et je me suis aperçu que ces combattants-là, ils n'avaient pas tous pris la direction de Paris ou du nord de la France. Ils avaient pris la direction aussi de l'Algérie, où ils étaient allés combattre la révolte. Donc c'était contre la révolte, contre les révoltés arabes, c'était à leur mémoire. Et je me suis dit, là il y a manifestement une inscription à la gloire d'une expédition coloniale. Et moi-même, je ne l'ai pas vu pendant des années. Et puis chaque fois que j'en parlais, y compris à des militants, il le découvrait, mais finalement, ça ne suscitait aucune réaction. Il n'y avait jamais de réaction sur ce monument-là. Et ça a commencé à m'énerver, cette histoire-là. J'avais d'ailleurs écrit un petit article qui a été paru sur mon blog de Mediapart et puis sur le blog que j'ai sur Mars Actu. Et c'est un peu dans la période où venait d'être édité le guide du Paris colonial et le guide du Bordeaux colonial. Et les éditions Cileps m'ont téléphoné et m'ont demandé si ça m'intéressait de travailler sur ce sujet-là. Et quelques temps avant, il y avait eu une conférence à la librairie Transit avec Saïd Bouamama. Et dans le débat, j'avais lancé au présent l'idée de... Et si on travaillait collectivement sur le sujet, etc. Donc tout s'est rassemblé et donc on s'est réunis, ça va faire donc 2 ans en mois de juin, là, à la fin juin, pour discuter, savoir si on pouvait travailler sur ce guide du Marseille colonial, en s'appuyant d'ailleurs sur un guide des rues de Marseille qui existe, aux éditions Jean Lafitte, où il y avait déjà un répertoire des rues de Marseille, avec déjà... alors bien entendu, d'un point de vue qui n'était pas le nôtre, qui était un point de vue très très conventionnel, disant qui est qui, parfois sans jugement ou avec des jugements même qui sont contraires à ce que nous on peut penser. On s'est répartis des arrondissements de Marseille et voilà. Puis on est allé de découverte en découverte et je dis même alors que le guide est terminé, on en découvre encore. Des choses, oh, tiens, on aurait dû penser à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé un blog qui va avec, parce que ce blog va compléter ce qu'on n'a pas mis dans le livre.
On parle beaucoup en ce moment effectivement des statues de la gare Saint-Charles. Il y a une pétition qui circule pour demander qu'elles soient déboulonnées. En faisant un guide comme ça, quel est l'objectif en fait ? Est-ce que, Parce que ces questions-là, j'ai l'impression qu'elles sont très souvent sous le feu des polémiques.
Oui, alors, si ça a pris corps, cette idée qui traînait dans ma tête depuis des années, puis probablement dans la tête d'autres aussi, hein, si ça prend corps maintenant, c'est pas pour rien, quoi. C'est parce qu'il y a un moment, il y a eu pas mal d'endroits des déboulonnages de statues, notamment dans les départements d'outre-mer, ça prend bien corps maintenant. Et nous, quand on a fait ce travail, c'est un travail d'information, peut-être de pédagogie, de dire, c'est pas prendre position sur est-ce qu'il faut les démolir ou pas les démolir. Dans le groupe même, on est tous contre, par exemple, les statues de Gare Saint-Charles. Mais par exemple, je prends la rue Colbert. Est-ce qu'il faut débaptiser la rue Colbert, lever la plaque, l'appeler de notre nom, ou vu l'importance du personnage dans l'histoire de la France, est-ce qu'il ne faut pas à la place mettre une plaque pour expliquer son l'importance qu'il a, notamment par rapport au commerce triangulaire et à l'esclavage. Voilà. Donc, mais nous, ce n'est pas le sujet de notre livre. Notre livre, c'est donner des informations. Disons, certains d'entre nous ont contribué au fait qu'on réclame le changement de la rue Bugeaud à travers finalement, la mairie a gardé la rue Bugeaud, mais a supprimé l'école Bugeaud. Après une action du collectif issu des États généraux de la culture, et donc, c'est déjà ça. Mais la rue Bugeaud et la rue Cavaignac existent toujours. C'est un travail d'information, de pédagogie. Savoir que quand je passe à tel endroit, à telle rue, il y a eu un événement.
Athènes, boulevard d'Athènes. En haut du boulevard d'Athènes, la gare Saint-Charles et ses grands escaliers dominent le centre-ville. Elle a été inaugurée le 8 janvier 1848 pour la compagnie du chemin de fer d'Avignon à Marseille. Avec le port de la Joliette, elle a été longtemps le point de passage obligé entre la France et les colonies pour les travailleurs coloniaux, les commerçants et les soldats. En 1955 et 56, elle a été le théâtre d'importantes manifestations de rappelés du contingent qui refusait de partir pour la guerre d'Algérie. Souvent, on découvre Marseille à partir des grands escaliers de la gare Saint-Charles, permettant d'atteindre le boulevard d'Athènes et la Canebière. Commencé en 1919, il devait être prêt pour l'exposition coloniale internationale de 1922. Ils ne seront finalement terminés qu'en 1925. Tout à la gloire de l'Empire colonial, ils incluent deux groupes en pierre de Louis Bottinelli, les colonies d'Afrique et les colonies d'Asie, dont les allégories sont à chaque fois des personnages féminins condensant tous les stéréotypes et fantasmes racistes et sexistes propres au colonialisme. Des militantes et organisations antiracistes réclament régulièrement que ces sculptures soient retirées ou, pour le moins, accompagnées de commentaires appropriés. L'historien Philippe Joutard les a décrites ainsi. Marseille, porte de l'Orient. Le cliché colonial par excellence. De fait, le voyageur qui arrive à la gare Saint-Charles et descend son escalier monumental passe entre deux femmes assises, chacune à la proue d'un navire. À droite, c'est l'allégorie de Marseille, colonie grecque. À gauche, celle de Marseille, porte de l'Orient. En contrebas, deux autres femmes couchées avec leurs enfants représentent les colonies d'Afrique et d'Asie. La leçon est claire. La cité phocéenne domine les territoires des deux grands continents. Le fantasme est plus évident encore. Les femmes colonies sont offertes, nues, presque liées, colliées autour du cou, bracelets aux bras et aux chevilles, et leurs filles elles-mêmes semblent à la disposition du conquérant.
Nora Mecmouche, extrait du guide du Marseille colonial. Vous m'avez dit, on assume de ne pas avoir forcément été objectif.
Oui, c'est-à-dire, on assume notre subjectivité, c'est-à-dire notre point de vue. Hein. Alors, je sais qu'on va être attaqué, peut-être être attaqué sur des points de vue un peu radicaux qu'on a, par exemple, quand on voit les œuvres qui sont exposées au musée de la Vieille Charité. On pose quand même la question de l'origine. Comment elles sont arrivées là et quelles questions s'est posées. Et la personne qui en a fait don au musée de la Vieille Charité, elle a très bien fait d'en faire don, se pose quand même la question, peut-être pour certaines, est-ce qu'il y aura un problème de restitution ou pas. On a des points de vue et on les assume. Thank you.
Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous mène à faire ce guide, finalement? Racontez-nous un petit peu.
Moi, personnellement, s'il fallait que je me définisse en deux mots comme militant, parce que je suis avant tout un militant, et depuis l'âge de 16 ans plutôt, je suis un militant anticolonialiste. Après, je peux rajouter antiraciste, communiste en partie, je suis avant tout un militant anticolonialiste, parce que c'est par là que je suis rentré dans le militantisme politique. Quand la guerre d'Algérie a commencé, j'avais 14 ans. Quand elle s'est terminée, j'avais 22 ans. Donc j'appartiens à la génération qui a été directement impactée par la guerre d'Algérie. Bien sûr, ce n'est pas resté simplement au niveau de l'indignation contre la torture, et choses comme ça. Je me suis, nourri politiquement de discussions, de rencontres avec des professeurs, avec des militants, avec des livres. Et je me suis forgé une identité politique. Toute ma vie, ensuite, j'ai bien sûr, ça a été l'Algérie, puis ça a été la Palestine, le Vietnam, la Kanaky plus tard. Voilà, j'ai continué et je continue encore à être un militant anticolonialiste. Donc, c'est tout naturellement, c'est ma sensibilité. Et en plus, l'idée profonde que j'ai, qui est de plus en plus forte, c'est que le camp de progrès dans notre pays, les progressistes dans notre pays, ont passé leur temps depuis des années et des années à reculer, à perdre des batailles, et parce que je crois qu'on n'a pas pris à bras le corps ce que j'appellerais la décolonisation de la France. La France est encore un pays colonial par l'idéologie dominante, par ses relations politiques avec les anciennes colonies et par ses relations économiques avec les anciennes colonies. Donc, tant qu'on n'arrive pas à persuader que c'est une question centrale dans notre pays, on n'avancera pas par nous-mêmes avec un bon petit franchouillard.
Comment vous pensez que justement que toutes ces questions, elles se posent dans la société aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression de voir les choses évoluer?
Il y a une dizaine d'années, j'aurais été peut-être à la fois plus dans l'action, je le suis moins maintenant parce qu'en raison de mon âge, mais j'aurais été moins optimiste qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis optimiste parce qu'il y a une génération qui prend ces questions-là à bras le corps. Qui fait que la bataille idéologique sur cette question-là est, à mon avis, en train de s'inverser. Si on sort ce livre dont on vient de parler, c'est pas un hasard, on l'a pas sorti il y a 10 ans. Aujourd'hui, ces choses-là ne sont plus refoulées. La génération à laquelle j'appartiens et la génération qui a suivi, que les gens aient été marqués directement par les guerres coloniales. Et surtout par la guerre d'Algérie, ou indirectement, mais tout le monde a été marqué, tout le monde a étouffé ça. Les victimes comme les bourreaux, on n'en parle plus. Hein. Et les jeunes qui sont issus de l'immigration algérienne, de la deuxième, troisième génération, ils en savent quelque chose, parce que souvent ils n'en ont jamais entendu parler chez eux. Et chaque fois qu'on dit à l'une d'entre eux, parce que c'est énormément de jeunes femmes qui portent ça. Quand on dit à l'une, tu devrais faire parler ton père, tu devrais discuter avec ton père, on sent que c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin, c'est douloureux des deux côtés, quoi. Mais aujourd'hui, ça sort. Et c'est ça qui me rend optimiste. Je pense que toutes les manifestations ultra-conservatrices, ultra-racistes, colonial qu'on entend dans les médias, tout ça, c'est un cri de défaite, quoi. Je crois qu'ils reculent, alors ils sont de plus en plus furieux, donc de plus en plus violents, donc de plus en plus risqués.
Alors pour revenir sur votre parcours, est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques dates clés? Quels sont les moments clés de votre parcours?
Il y a quelques événements qui m'ont marqué, ces deux dates. Le premier événement dont je me souviens vraiment, sans qu'à l'époque j'en tire bien sûr des conclusions, mais ça m'a secoué, mais ça a secoué tout le monde. La défaite de l'armée française à Dien Bien Phu en 1954, aujourd'hui ça ne fait plus trembler personne. Mais à l'époque, ça a été... moi je me souviens, j'étais avec ma mère devant le poste de radio quand on a entendu la capitulation de l'armée française à Dien Bien Phu. Ni ma mère ni moi n'en tirions des conclusions politiques. Mais le lendemain matin, dans les cours du collège, on en parlait. C'est le démarrage de la décolonisation, quoi. Les Vietnamiens ont montré que l'armée française n'était pas invincible, quoi. Le deuxième événement, alors il est tout, très très personnel, c'était en décembre 1955. Je me trouvais sur le quai de la gare de Vein, c'est dans les Hautes-Alpes. J'allais pour la première fois de ma vie, j'allais au ski. Et je suis fils de cheminot, donc j'étais mon copain cheminot. Et la sœur de mon copain qui nous accompagnait lisait un numéro de l'Express. Je sais maintenant que c'est le numéro du 29 décembre, je crois du 29 décembre 1955, parce que je l'ai recherché. Et là, il y avait une série de photos, j'ai une photocopie, de ce qu'on appelait la corvée de bois, c'est-à-dire un soldat français qui envoie, soi-disant, un Algérien chercher du bois, et une fois qu'il a démarré, il tire dessus, quoi. Il y avait toute une série de photos, un soldat avait pris des photos, et elles étaient publiées dans l'Express. Cette vision-là m'a remué, quoi. J'ai ensuite pris le numéro suivant de l'Express, parce que ça a fait beaucoup de bruit, d'autres journaux, et j'ai découvert l'usage de la torture et tout ça. Et ça, c'est le deuxième événement. Et plus tard, c'est le manifeste des 121 pour l'insoumission. Ça, c'est quelques années plus tard. Entre-temps, il y avait eu aussi, en 1956, il y avait eu l'expédition franco-anglaise israélienne sur le canal de Suez. Il y avait eu en même temps l'intervention soviétique en Hongrie, qui n'est pas dans le même sens, mais qui est un événement politique qui m'avait marqué. Et voilà ces dates principales du point de départ. Après, il y en a d'autres qui se sont fixées en fonction des événements. Mais ça, c'est les dates phares.
Et alors, qu'est-ce qui vous porte encore? Parce que l'émission s'appelle « Pourquoi tu cries ?» Mais j'ai l'impression que là, on a compris les raisons qui vous ont poussé à crier. Mais comment on fait pour continuer année après année et voilà.
Je considère les raisons pour lesquelles je me suis engagé. Je me suis engagé donc par indignation d'abord, et puis par lutte contre le colonialisme. J'estime que cette lutte n'est pas finie. Et dans cette lutte de militants, parce que j'ai suivi un parcours militant d'extrême-gauche, j'ai été ce qu'on appelait parfois des pro-chinois, parfois des maoïstes, des marxistes, ça a pris des noms différents suivant les périodes. Et dans ce cadre-là, on a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises, beaucoup de choses que je pourrais regretter, que je regrette parfois. Mais les raisons pour lesquelles je me suis engagé, pour lesquelles j'ai eu cet engagement, c'est en fait fondamentalement cette cause anticolonialiste et anti-impérialiste. Et cette cause, elle existe toujours. Alors, il y a quelques années, j'aurais pu désespérer. Maintenant, je dis, ça y est, il y a une génération qui, même si je trouve que ceux de ma génération beaucoup trop, et les générations suivantes ont baissé les bras, hein. On se voit en cette période électorale où même dans les candidats de gauche, on n'ose pas trop parler des questions qui fâchent, quoi. Ça m'a aussi apporté, je pense par exemple à la Kanaki. Il y a quelques... Dans ma jeunesse, la Nouvelle-Calédonie, ça n'existait pas, quoi. Et Tahiti, c'était Tahiti, quoi. C'était l'exotisme, les Vainés, tout ce qu'on veut, quoi. Et puis, je me suis aperçu que là-bas aussi, il y avait des gens qui luttaient. Et ces gens, ils avaient une autre manière de penser, qui nous apportaient des choses. C'est pour ça que, par ailleurs, j'ai créé une petite maison d'édition. Et dans cette maison d'édition, par un hasard de rencontre, j'ai rencontré un militant, chercheur, qui vit en Nouvelle-Calédonie, et avec lequel on a créé une collection de petits livres qui s'appelle « Kanaki Nouvelle-Calédonie », qui donne la parole à des acteurs kanaks ou sympathisants des kanaks là-bas. C'est ma manière aujourd'hui de... Je ne vais plus beaucoup coller d'affiches ou distribuer de tracts, mais je continue, avec les forces que j'ai, à travailler là-dessus, quoi. Ça nourrit ma volonté que le combat n'était pas terminé et qu'il fallait le nourrir.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Charbonnier.